Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tel...
Non. 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 Celle-là, là, je tannais.
Ouais, dans un univers pas mal...
De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant 3 mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses 10 ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca/festival-nomade.
Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaînes musicales.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 13e édition des Célidors de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2018 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.celidors.com.
Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente, votre animateur...
Simon, l'été Predge.
L'été?
Oui.
Ouh! Mais je sais pas ce que ça veut dire.
Quelqu'un qui coupe tout le temps la parole.
Oh!
C'est de l'amour. Là.
C'est de l'amour.
Ben,
c'est
oui,
vraiment c'est de l'amour.
Comment t'écris ça, l'été?
Été.
Nos connaissances s'arrêtent là.
Accent aigu, T-E, accent circonflexe, T-E-R.
OK.
D-T-T.
Fait que, bien sûr, je ne ferai pas ce show-là tout seul. Je suis en compagnie de gens que je croyais mes amis.
On en préfère nous comme du monde.
Ben oui. Oh, que c'est ça? La musique, elle part tout seul. Attends, la musique, elle part tout seul, ça, c'est un problème.
Pis ça, j'ai peur de faire la console, ça. Ah.
Ben, ça. C'est pas supposé faire ça d'habitude. Bon, ben, je vais couper Simon le son et je vais fonctionner. Je vais être obligé de fonctionner avec VLC. Je sais pas ce qui se passe. Ben non, je serai pas tout seul aujourd'hui. Faut bien quelqu'un à qui couper la parole. C'est pourquoi aujourd'hui je couperai la parole au valeureux Olivier Bigonesse et à son comparse directement de
De quoi?
D'Horreur Québec. Du coup, on me sent enfargé dans ma langue.
Correct.
On se fait vieux, hein? Éric Arsenault, mesdames et messieurs. Bonsoir, messieurs. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va bien,
toi? Non, j'ai pas le temps, là. c'est pas vrai. OK, mais je sais pas pourquoi ça joue tout seul. OK, bon, je vais faire que je deal puis que je roule avec VLC. C'est pas grave, on va dealer avec. Aujourd'hui, on a encore un gros show, ben, fun! Tout d'abord, hein, c'est Eric qui est avec nous. C'est pour nous ramener les dernières nouvelles d'Horreur Québec. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'horreur de tout Akabi?
Oui, t'as-tu mon...
Ben, on part de ça,
là? Ah, on part de ça, là, vas-y.
Y'a-tu hâte, hein? Ben, on y va drette, là. Attends une minute, là, j'étais pas prête, là. Parce que tu voulais y aller si vite.
T'es comme Canel, t'es pas prête.
Wow! OK, fait que là, hein, vous le savez, on cherche encore la chanson thème pour Eric. Fait qu'on essaye des affaires. Aujourd'hui, on essaye ça. I wanna know what love is.
tellement content.
Mais je suis pas sûr.
Ouais, ben moi aussi, je suis pas sûr, mais c'est... tantôt, j'étais bien excité, je sais pas pourquoi.
Mais ben là, c'est parce qu'il faudrait que par-dessus, je fasse Horreur ouais. Québec!
Avec des coups de couteau, je sais pas, des bruits.
Ouais,
de...
je sais.
I want you to show me, slack, slack! Je sais pas, on va
c'est pas de l'amour une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, Simon, j'ai envie que tu montres c'est quoi l'amour.
Ah, ben là, peut-être pas en onde.
Ok.
Il dit ok.
D'accord.
Fait qu'est-ce qui se passe de nouveau cette semaine, mon Eric?
Écoute, on va parler du nouveau Candyman, produit par Jordan Peele, qui a réalisé Get Out.
J'ai pas vu ça passer, moi.
Ben en fait là il annonce, ben en fait c'est sorti aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que tu l'as pas vu passer.
Voilà.
Voilà, ça explique bien des choses.
C'est tellement frais tes nouvelles.
Je sais, écoute, je puise à la source. Donc c'est ça, donc on va annoncer, ils ont annoncé leur réalisateur et sa date de sortie. Donc MGM a fait l'annonce aujourd'hui que c'était le cinéaste Nia DaCosta qui a réalisé Little Woods, qui va réaliser le film d'après un scénario de Peele de Wynne Rosenfeld, qui est également producteur. Le tournage va débuter au printemps et ça va sortir le 12 juin 2020. Fait que attachez votre
truc. Yeah, OK, c'est pas de suite.
Non, c'est pas de suite. Mais en fait, on apprend que c'est pas un remake, c'est plutôt une suite spirituelle au film original de 92.
OK.
Donc, on parle d'un retour dans le quartier de Chicago, maintenant gentrifié, où le projet immobilier Cabrini Green a eu lieu et surtout où la légende de Candyman a débuté. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'original, c'était, ça sortait en 92, comme j'ai dit. C'était réalisé par Bernard Rose. C'était un homme meurtrier avec un crochet en guise de main. Et accidentellement, ramené dans un monde réel par une étudiante, Virginia Madsen, sceptique, qui étudie le mythe du monstre. Donc, c'était le fameux film qu'il fallait dire, Candyman, cinq fois devant le miroir. C'était excellent, d'ailleurs.
La fameuse soundtrack de Philip Glass, là, la soundtrack de ce film-là.
C'est magique. C'est tellement
tout
bon.
Tout à fait. Vous, est-ce que ça vous excite ou...
Je sais pas. J'allais poser cette question-là.
Ah, tu vois, je t'ai devancé.
Mais parce que... Avez-vous aimé le 2?
Non.
Moi, j'ai pas vu les suites. J'ai vu l'original.
J'ai tellement tout vu. Ah ouais, j'ai tellement pas aimé le 2 que j'ai jamais vu le 3.
Ah, oh, le 3, c'est encore plus cheap. Écoute, c'est une fille de Baywatch qui joue dedans. Là, c'est non. J'ai vraiment pas aimé le deuxième. Là.
Donc, c'est peut-être mieux de se garder en mémoire le premier puis de voir peut-être celui-là.
Je pense qu'on peut être agréablement surpris.
Peut-être.
Je pense que. En tout cas, c'est peut-être juste une impression. Vous donnerez votre opinion après, mais je pense que. On est dans une période où les remakes ont comme... Les gens qui vont réaliser des remakes, en tout cas, ont comme compris qu'on était écœuré des remakes cheap. Et il y en a encore.
Oui.
Mais il y en a peut-être de plus en plus dont les réalisateurs font un réel effort puis font de mieux en mieux, j'ai l'impression. Donc, je donnerais peut-être sa chance.
Moi aussi.
Ouais.
Non, on va le regarder. Mais
ben, c'est ça.
Je suis pas hype. Je joue pas super out.
On verra.
De toute façon, il est pas mal tôt. Je veux dire, 2020, on s'entend qu'on a le temps. Là.
Est-ce que c'est Tony Todd qui revient ou.
L'histoire le dit pas.
Ah.
Ok.
Donc,
mais quand ils disent une suite spirituelle, j'ai le feeling que ça sera pas les mêmes acteurs, ça sera pas la même histoire, ça va pas rien. Ils vont s'inspirer, ils vont partir peut-être avec un autre personnage, mais je dis ça.
Moi, je voudrais ça plus intéressant.
Ben, moi aussi, ça serait vraiment logique.
Ben oui, là, je pense qu'on a fait le tour avec le premier, là.
Il est encore vivant, là.
Ben c'est ça. C'est bon, on verra bien, mais c'est intéressant, mais comme vous dites, pas tant hypé encore.
Non. OK, c'est bon. Fait qu'on va enchaîner avec un autre remake, Terrified, un film que j'aurais pas de vous parler, puisque moi j'aime beaucoup.
Ouais.
Ça pique ma curiosité.
Donc, c'est Screen Anarchy qui appartient à la compagnie de production XYZ qui ont sorti The Raid, Mandy, qui a fait l'annonce du scoop ce matin. Puis c'était ce matin, là, mais je pense que c'était hier. Là. J'étais un peu mêlé dans mes notes.
On est mardi à passant.
Oui, je sais.
Ben pour les auditeurs qui l'écoutent pas live, là, je veux dire.
Exactement, merci. Ouais. Ça vient mêlant. Bref, c'est nul autre que Guillermo del Toro qui va produire le remake pour Fox Searchlight. C'est le même réalisateur à la base qui va le réaliser, c'est Damien Rugna.
OK.
Qui va réaliser le remake. Par contre, on sait pas si c'est la suite, parce qu'il y a un Terrified Part 2 de Book of Jano qui est en développement. On ne sait pas si ça va affecter ça ou pas. Hmm. Mais c'était un peu prévisible là, qu'elle allait faire un remake genre pour aller chercher le public.
Mais c'est assez vite, là. C'est...
Ils ont mais pas perdu vite. Temps.
Ça fait même pas un an. Là,
je sais. Ouais. Je sais que c'est vite.
Mais c'est aussi les Américains.
Le même réalisateur, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr qu'un petit peu qu'il avait fait avec Michael Haneke pour Funny Games.
Ouais. C'est vrai.
Puis, voyons, The Grudge.
Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas The Vanishing, c'était pas le même réalisateur?
Oh, ça, moi, je sais pas.
Je pense que oui, mais je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que oui.
Mais se faire donner plus de budget, puis il va sûrement aller chercher, je sais pas moi,
des stars.
Des stars.
Mais ouais. Bref, c'est ça. Et, écoute, hey, j'ai de la suite dans les idées. Ils ont sorti cette semaine le teaser du remake de Child's Play. Mais c'est vraiment un teaser. Là.
Ouais, c'est plus, moi, je l'ai pas regardé. Okay, hein. Je sais pas si je regarde de moins en moins les bandes annonces, fait que je sais pas encore.
Il y a rien.
Si ça vous intéresse, on a le teaser sur horreur.québec. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont sorti des petites affiches là, promotionnelles. Là,
ouais,
sont quand même cool.
C'est cute.
C'est cute, là, ouais. C'est ça. On dirait que c'est un peu enfantin, là, mais c'est cute. Ça, ce film-là va sortir le 21 juin. Prochain.
Moi, ce que je suis curieux par rapport à ce film-là, c'est Aubrey Plaza qui va jouer dans Child's Play. Puis on s'entend que c'est une actrice comique, là. Je l'aime beaucoup, là. Elle a joué dans Life After Beth qui avait été présentée. Fantasia, c'est une actrice comique. Elle joue dans Little Hours. Vous étiez-tu là ou.
Non.
Vous étiez-tu là? vous étiez là.
C'est ta belle France.
Mais Aubrey Plaza qui est super drôle, là. C'est une actrice que je trouve vraiment, vraiment drôle. Puis de la voir dans un film comme ça, un film d'horreur, c'est. Je sais pas.
D'accord, ça va peut-être être le comic relief ça, du film.
C'est l'actrice principale du film.
Ouais, je sais en plus.
J'ai... En tout cas, je suis curieux.
Ben, pour l'instant, moi qui est fan de Child's Play, j'ai hâte de le voir.
OK.
Mais j'espère que ça sera pas l'effet Nightmare on Elm Street.
Hey,
ça a fait mal.
C'était-tu pas dégueulasse?
Ouais. Oh, ça a fait mal.
Je
là.
Sais.
Ouais.
Fait que pour l'instant, j'ai hâte, mais j'ai peur.
Okay.
J'ai peur de pas aimer ça, puis que ça soit vraiment comme ça. Il y a une réinvention fade, là.
D'ailleurs, parenthèse, en parlant de Nightmare on Elm Street, est-ce que vous avez vu l'apparition de Robert Englund en Freddy?
J'ai pas vu.
De Goldbergs. Moi, j'ai vu. Et c'était fort sympathique.
Ouais, c'était
vraiment,
cool.
Tu vois qu'il est encore à l'aise dans son rôle. Tu sais, c'était pas les meilleures blagues, là. J'ai pas ri à grand déploiement, là. Mais
ben,
c'était.
Bref, Freddy, là.
Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même très cool de le ramener pour un épisode. Bref, c'est la mère qui veut pas que son fils regarde Nightmare on Elm Street. Finalement, elle fait des cauchemars de ça.
Ah, ok. C'est ça que j'avais demandé, c'était quoi l'approche?
Ouais, c'est ça. Donc, parce que ça, c'est comme qui se passe dans les années 80.
Ah,
donc,
ok.
Nightmare on Elm Street venait de sortir.
Ah,
donc,
cool.
Voilà. Donc,
mais c'est bon, ça, de Goldberg? C'est pas de l'horreur, là, on s'entend, là.
Ben, honnêtement, j'ai
regardé trois épisodes.
Moi, j'en ai comme pris des bouts par-ci, par-là, là. C'est correct, là.
Okay. J'aimais bien, je sais pas c'est quoi son nom, elle. Je l'aimais bien parce qu'elle était drôle dans Bridesmaids. C'est pour ça que j'avais écouté.
Ah oui, c'est vrai, dedans. Avec sa chevelure des années 80.
Ouais.
Okay. Bon, fait que la semaine prochaine, Ali, tu nous critiques Bridesmaids?
Cool!
C'est correct, t'as droit.
Je vais enchaîner avec une triste nouvelle.
Oh oui, oui.
Ouais,
ouais, retire tes larmes, s'il te plaît.
OK, attends une minute.
Bref, il y a quelque temps, je pense que c'est dimanche ou samedi passé, si je ne me trompe pas, le cinéaste britannique Nicholas Roeg est décédé à l'âge de 90 ans. Il avait réalisé, en fait, une trentaine de films, dont ceux Don't Look Now, de 73, et un de mes films d'enfance préférés, The Witches.
The Witches.
Ah oui, c'est lui qui avait ça, c'est vrai.
Ouais, que j'adore encore.
C'est tellement
toujours.
Bon. Ouais.
Je l'ai regardé il y a à peine quelques mois.
Ouais. Ah ouais?
Ouais, okay. Au chalet.
Une fois
au chalet, okay. En VHS.
Écoute, petite anecdote. J'ai des anecdotes à filer, on dirait.
Correct. C'est du podcast, on a le temps.
Oui, je sais. Je travaille dans une école et à un moment donné, la prof avec qui je travaille, c'était des enfants de 11-12 ans. On s'est dit, on va projeter ce film-là. C'est basé sur un livre, donc on voulait faire le parallèle avec le livre, blabla.
Okay. Bla. Je savais pas.
Et les enfants ont eu peur.
Oh!
Ben c'est sûr, c'était peur.
Et encore
peurant.
Épeurant, j'ai fait, oh, OK. Peut-être
non, les sorcières, elles sont épeurantes.
Oui, c'est vraiment épeurant. Mais c'est toujours aussi bon.
C'est vrai que c'est une drôle de zone. Ça, c'est comme un film pour enfants, mais c'est clair qu'ils vont faire des cauchemars, là, tu sais.
Ben, c'est clair.
Mais juste, moi, quand j'étais petit, le vite-vite, la mini-parenthèse, moi, je pense que le bout qui m'a fait le plus peur, c'était pas la Angelica Houston pis les sorcières. C'est au début du film, quand la grand-mère raconte quand elle était petite.
Oui.
Pis il y a une petite fille qui se fait enlever dans une ruelle, ben, qui échappe ses bouteilles de lait à terre, pis la madame qui l'attend avec ses genres de mitaines en peau de lapin, pis la vapeur qui sort, ouais. C'est cette scène-là, moi, qui m'avait fait peur quand j'étais petit, qui se fait enlever, puis elle est pognée dans le tableau après. Oui. C'est ça qui m'a fait peur.
C'est vrai que c'est hot, le tableau. Hein. Ouais, on en veut tous un comme ça. Là.
Effectivement, bref, il avait réalisé aussi The Man Who Fell to Earth, ouais, avec David Bowie. Oui. Son dernier film, c'était Puffball, The Devil's Eyeball, en 2007.
Bon, ben, paix à son âme. Merci pour ton bon cinéma.
T'en avais-tu listé un autre aussi qui est décédé il n'y a pas longtemps?
Non.
Je veux le dire.
Vas-y.
On a le Bernardo Bertolucci qui nous a quittés aussi. Ça, c'est grand cinéaste. C'est le Last Tango in Paris.
Ah, ouais.
1900 avec Depardieu. Robert De Niro. Mon Dieu. Il y a une très longue filmographie. C'est lui qui a fait l'Empereur de Chine.
OK.
Oui, très, très gros morceau du cinéma italien qui a été perdu. Je crois qu'il est décédé hier. Oui, deux bons réalisateurs qui sont décédés cette semaine.
Il y a beaucoup de monde qui sont décédés cette semaine. Là. On n'aime pas tout le monde, mais il y en a eu une couple. Là. D'ailleurs, c'est aujourd'hui ou hier, c'est l'anniversaire de la mort de Carradine.
John Carradine. Ben oui, t'as raison.
Ouais,
Il est mort, ça fait 30 ans. Hein,
30 ans, exact.
Qui est décédé, oui.
Puis, on a. C'est sûr que c'est moins la zone oubliette, mais il y a aussi Stan Lee, créateur de. Ben, BDiste,
oui,
là,
quand même.
Créateur de Spider-Man et combien d'autres univers. Ben oui. Fait qu'à 93 ans, 95 ans, quelque chose comme ça.
95.
C'est quelque chose, là.
Il y a toute une vie, là.
Oui.
C'est ça qu'on disait brièvement avant l'émission. Ah non, c'est pas vous autres, je disais ça. C'est pas grave, là. Mais on commence à le sentir qu'on vieillit quand toutes nos vedettes de jeunesse partent. Puis ils partent vite, là. Ils partent toutes des mêmes semaines, là. C'est back-to-back, en ce moment, là. Je veux dire, on réalise pas que nos parents ont traversé peut-être plus aisément la même chose parce que là, c'était les journaux, médias, c'était télé, mais il n'y avait pas d'Internet comme nous autres. Mais fait que nous autres, c'est sûr, ça nous saute plus d'en face, mais il reste que là, on réalise qu'on vieillit parce que tous nos héros s'en vont. Là.
Moi, je le réalise beaucoup avec la musique. Tu sais, il y a eu Prince, il y a eu Bowie. Là, j'en oublie plein. Là, mais
c'est comme la fin d'une ère, on dirait.
Oui, tu sais, c'était comme... Hey, tout ce que j'écoutais quand j'étais...
Ah, t'as ici d'ici qui est mort cette semaine.
Ben ah, ouais?
Ouais, un gars, je sais pas lequel, mais d'ici d'ici qui est décédé.
Ouais.
Bref, on va tous mourir.
Le créateur de SpongeBob.
Oui,
le créateur de SpongeBob.
Oui, j'ai vu ça. Je fais, ok, un autre. Je sais pas c'est qui, mais...
Oui, c'est vrai.
J'espère que vous êtes prêts prochain,
les
gars.
Non, c'est du bois. On est là pour rester.
Ouf, ok.
C'est bien.
Ok, je touche du macramé.
Fini monde mort.
Ça va.
Bon, des nouvelles positives, là.
Oui, ben, vous savez, j'avais fait avec Shudder la dernière fois que je suis venu à les films pour le mois d'octobre, mais là, Marc Boisclair a fait un petit topo de 5 films ou séries à voir sur Netflix.
Ah, bon.
Premièrement, surveiller, ben, il y a Hellboy. Hellboy, parce que il va y avoir un remake bientôt. Justement, on parlait de remake. Donc, si vous l'avez pas vu encore.
Ah, ouais, un remake d'Hellboy?
Ouais. C'est le gars de Stranger Things, le policier, qui va faire Hellboy, là.
Je peux-tu demander pourquoi? Pourquoi un remake? Il me semble que c'est pas si vieux. Puis c'est pas comme si l'histoire était bonne, mais pas le film. Fait qu'on va le refaire. Ça vient pas. C'est toujours ça bizarre. C'est vite. Mais en même temps, non. C'est pas vrai. Ils ont fait comme 175 remakes de Spider-Man dans les 10 dernières années. Là. Bon, j'ai rien dit, finalement. Okay.
Mais
ça
va sortir. Est-ce que le remake va sortir au printemps prochain? Mais sinon, c'est une belle occasion de voir Hellboy. Ceux qui savent pas, c'est un démon élevé dès l'enfance après avoir été conjuré et sauvé des nazis, grandi pour devenir un défenseur des forces des ténèbres.
Ça a l'air gros de même, mais c'est vraiment le fun.
Ouais, ouais. C'était réalisé par Del Toro.
Ouais.
Très bon. Sinon, un autre que moi, j'ai vraiment hâte de voir. Écoute, avec Sandra Bullock.
Ouais.
Étrangement. Dis out, puis Sandra Bullock, ça.
Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça.
C'est Bird Box.
Ouais.
En fait, c'est ma vedette de Sandra Bullock. Et. Sarah Paulson, qu'on adore.
Moi, j'aime beaucoup,
Dans American Horror Story. C'est adapté d'un roman de Josh Malerman. Donc, ça, en tout cas, moi, je trouve que ça a l'air prometteur. Faire un synopsis vite, vite, là, c'est lorsqu'une force mystérieuse décime la population mondiale, une seule chose est sûre, si vous la voyez, vous perdez la vie. Donc, les gens ont tous des bandeaux.
Ah ouais.
Ils peuvent pas aller à l'extérieur, sinon, ils meurent.
Un peu de le mythe là, de grec avec les cheveux de serpent, c'est quoi son nom?
La méduse.
La méduse.
Ouais. Ok, ça se peut que ce soit ça. Genre.
Peut-être inspiré de ça.
Bref, en gros, c'est ça. Moi, je trouvais que ça faisait passer un peu à. Tu sais que je vais dire à Quiet Place. D'abord, là, c'est pas les.
Là, c'est plus les sons. C'est plus les sons.
Ouais.
Tu sais, je fais que
c'est. Mais ils font tout, d'ailleurs. Ils font tout. J'ai hâte au celui que tu goûtes rien.
Ou tu touches à rien.
Ah, tu touches à rien.
Et tu sens rien.
Ouais.
Quand même. Ben, je sais pas, moi, je trouve ça en tout cas.
Oui, mais c'est.
J'ai hâte.
Je suis curieux. Je suis curieux pareil, mais la bande-annonce, il montre beaucoup, beaucoup de choses. Au départ, c'est Netflix, sans ça.
Oui, c'est Netflix.
Puis je me suis dit, c'est une télésérie, genre, tu sais, parce qu'il en montre beaucoup dans la bande-annonce. Puis ça me faisait penser justement qu'il est à Quiet Place, mais avec un bandeau, puis il regarde pas. On verra.
On verra. Sinon, il y a Diablero, qui est une production mexicaine avec Netflix.
Ah, OK. Ouais.
Où tout le monde, c'est une série, où tout le monde se transforme en démon. C'est tout cassé pour l'instant.
Ça, c'est dans ses suggestions, fait que ça devrait être bon. Là.
Moi, je pense que ça devrait être bon.
OK. Mais j'avoue que dernièrement, les productions Netflix qui m'ont le plus fait triper, c'est les films internationaux ou les séries internationales.
Oui.
Ben,
je t'ai dit un coup d'œil. The Dark, là, pis tout ça.
Tu sais, juste, en plus, là, ça arrive le 21 décembre, comme Bird Box. Fait que ça arrive dans le temps des fêtes. Un peu tout le monde est en congé. Fait que tu peux te taper.
Ah, c'est une télésérie, ça.
Ouais,
c'est une série.
Ouais. OK. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Une autre série, ça va être Perfume.
Ah oui!
Ouais. Ouais.
Je suis curieux, ça.
Inspiré du roman Le Parfum, histoire d'un meurtrier de Patrick Suskind. En tout cas, quelque chose de genre. Tu m'aides pas par tout, hein? Non, je sais.
C'est plus moi qui ai à
là, mais on dirait qu'on est comme rendu habitué. Ouais. Fait qu'on se le dit plus. c'est à propos de l'odorat, la passion, le meurtre en série. Sauf que là, ça va être une tournure contemporaine. Donc, c'est Netflix allemand. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça aussi.
Ouais, c'est intéressant.
When the Angels Sleep. C'est entre le Noël et le jour de l'an pour avoir le thriller espagnol. C'est espagnol, celui-là. C'est une exclusivité Netflix. On sait pas grand-chose pour l'instant. Netflix va dévoiler une bonne annonce en anglais prochainement. Donc,
On est
très peu d'infos. Mais ça sort le 28 décembre.
All
donc,
right.
Faire un parallèle avec Netflix, on a appris grâce à la presse plus qu'il y aura un premier film québécois sur Netflix.
Oui.
Je dirais exclusivement pour Netflix. Ça va. C'est là. Et j'ai oublié le nom. Oh, c'est juste. Ok, je cherchais le nom puis il n'y en a pas. Ça va bien. Il n'y a pas de nom encore pour pour le film. C'est juste qu'on sait que c'est un thriller survival qui va se passer dans le nord, dans l'hiver.
Oh yes!
Ça va être réalisé par Patrice Laliberté. Ça va être son premier long métrage.
Ah, c'est cool.
Ouais,
je suis content aussi de constater qu'ils tiennent leurs promesses parce que des fois, hein, on se rappelle le gros débat qu'il y avait eu avec les productions québécoises, Netflix, tout ça, l'argent investi.
Oui, c'est vrai.
Puis, tu sais, ça prend un temps à installer, ça prend un temps à régler tout ça. Content de voir que ça commence, là.
Ouais, là, tout ce qu'on sait, c'est que le tournage va débuter en février. Okay. Il n'y a aucune date de sortie encore pour l'instant. Mais, excusez. On nous promet qu'il va y avoir du froid, du survivalisme et une préparation à l'apocalypse.
Oh!
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant.
On aime ça, l'apocalypse.
Ouais, on va vous en parler plus en profondeur quand on aura plus de détails.
Ah, j'aime ça quand tu dis plus en profondeur.
Ben, je sais, hein. Quand t'en regardes dans le blanc des yeux. Ouh, j'étais comme une petite émotion.
Mais normalement, par exemple, quand on rentre d'une chambre ensemble, je te vois pas pour une demi-heure.
Oh my God.
Oh!
Oh! Boom! Oh,
OK, c'est cool.
Mais tu t'en souviens.
Oh, que je m'en souviens. Marche à quatre pattes pendant une couple de jours. Où c'est qu'on est rendu? OK.
C'est tout le temps le fun de parler de pénis avec toi. Fallait que je dise pénis ce matin. Dans la petite nouvelle, les créateurs de Dark, Je sais pas si vous avez vu la série Dark.
Ah ouais, c'est très bon.
Excellente série.
Je sais pas c'est quoi.
Ah, pour vrai? Ah, tu regardes ça.
C'est un peu triste.
Ah, ok.
Ça me surprend. Ça me surprend. Tout le monde en a parlé pendant un bout de temps.
Ah ouais, vraiment.
Quand ça a sorti, ça a fait boom, là.
Je vais mettre ça dans ma wishlist.
Ah ouais, faut que tu vois ça.
Pour vrai,
je vais aimer ça. Mais non, c'est... si je peux faire une suggestion, ben, vas-y, là, à quelqu'un qui l'a pas encore vu, là, sois en forme.
Oui.
Je trouve qu'il y a beaucoup à suivre. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de personnages. Faut que tu sois en forme pour écouter ça. Okay. Mais c'est vraiment bien réalisé.
Ah, c'est vraiment bien réalisé. Puis à un moment donné, je pense que vers le troisième épisode ou le quatrième, ils t'expliquent. Ils te remettent. Je sais pas si tu te rappelles, là, ils font vraiment parallèle. Okay, ils font vraiment parallèle pour que tu te souviennes. Ah, ok. Ça, c'est ce personnage-là. Bref, ouais, je vais pas trop en dire.
Non, mais... c'est ça. On veut pas le spoiler parce que, bon...
ça vient-tu d'un
je pense qu'on
pays?
Peut dire qu'on joue...
Oui, c'est allemand.
Ouais. Enfin, c'est sous-titré, là.
Ouais.
Oh, oui, okay.
Ben, en fait, il y a une version anglaise, je pense.
Oui, une version anglaise. Moi, j'ai écouté la version française.
Ah, moi, je vais lire.
Cette journée-là, ça me tentait pas de lire.
OK.
Puis la traduction était super bien faite, je trouvais.
OK.
Vraiment.
Je vais mettre ça dans... Je vais regarder ça.
Ben, écoute, c'est un devoir, je trouve.
Ouais, je le pense aussi.
Je vais vous écouter.
Ouais, donc la série va s'appeler 1899. Son récit se déroulera au cours de la même année pour suivre un groupe d'immigrants européens qui se rendent en Amérique en bateau à vapeur. Le paquebot, en croisant un autre au milieu de l'océan, et c'est ce qu'ils trouveront à bord, transformera leur voyage en incroyable enfer.
Ah, ça, j'aime ça. Ça rappelle... le film très Lovecraftien dans l'espace qui retrouve le vaisseau, là. Voyons, avec...
Life Force?
Non, je sais lequel plus récent que ça.
Event Horizon.
Ouais, ouais. Merci les boys, une chance d'être là. J'aime beaucoup cette approche-là. Il y en a beaucoup d'histoires insolites comme ça aussi qui se rapprochent plus d'Ars Moriendi. Tu sais, des navires qu'on a, on n'a jamais retrouvé le navire. Puis là, 30 ans plus tard, on retrouve le navire. Il est en parfait état de navigation, mais il n'y a plus personne sur le bateau, puis on ne sait pas pourquoi ils sont disparus. Mm-hmm. J'aime ça, ces histoires-là. Ça ouvre la porte à tellement de possibilités. Ouais. Est-ce que c'est prometteur, selon toi?
Moi, je pense que oui. Je suis vraiment excité.
Ouais.
Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Mais là, je viens de savoir un petit message de Marc qui me dit que lui, de Dark, il a vraiment haï ça.
Ah, bon.
Donc, t'avais juste à pas me texter pendant. Fait que c'est
Allô, Marc.
On le salue.
C'est à l'opposé carré des fois.
Oui, je sais. Mais on l'aime On l'aime de même.
Ah non, mais c'est correct, là. Faut qu'on ait un pour et un contre. Sinon, tout le monde va être tout le temps d'accord. Ça va être plat.
Tu sais, en tout cas. Bref, une chance qui est sympathique.
Mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui va accrocher à Dark.
Non, parce que c'est lent.
Ouais.
Mais c'est tellement bien réalisé. Maudit que c'est beau.
Ouais.
Okay. Oh. Ouais, bref. Fait que c'est bien excitant, moi, je trouve.
Ouais, j'ai hâte, ça. Avec sa réalisation, là, ça va être bien cool.
Cool, puis c'est tout, mon cher.
Ah, déjà.
Écoute, t'as-tu vu comment j'ai bien fait ça?
Ah, t'es dans mes tailles.
Je sais.
Oh!
C'est vrai, le nombre de fois qu'on me l'a dit.
Oh! Ok, bon, c'est assez bien.
Ah, c'est ok.
Ah, on est.
Hey,
c'est comme image.
Hey, Ali, la prochaine fois qu'Eric vient, là, je viendrai pas, moi. Je vais rester chez nous.
C'est encore drôle.
Oh, c'est lourd.
T'as chaud, hein?
Alors, bienvenue à Sur l'oreiller, cette semaine.
Tu vois, ma chanson du début marchait.
Ouais, tout à fait. Finalement, on va peut-être la garder, ton thème.
Vas-y, enchaîne avec la musique quand on a chaud.
On va aller écouter, tu veux-tu présenter, Ali? Ta sélection?
Ah oui, on va aller écouter une petite... c'est-tu Ritz Ortolani ou je me trompe avec...
Je l'ai pas pris en note pour ça. Bref,
c'est le thème finalement de Cannibal Ferox.
Oh, yes.
On va aller écouter le film de Cannibal italien.
Et on vous revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca.
Thank you. Get ready.
All right, time circuits on.
Get set.
What do you mean we're in the future?
On November 22nd, the adventure that's 30 years ahead of its time continues at theaters everywhere. Steven Spielberg presents a Robert Zemeckis film. Michael J. Fox.
Gotta be the wrong year.
Christopher Lloyd.
It's your kids, Marty. Something's gotta be done about your kids.
Back to the Future Part 2. From Universal Pictures, rated PG. Parental guidance suggested. A brand new future is coming on Wednesday, November 22nd.
Ouais, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'avec les vieux trailers de Grindhouse, je commence à manquer d'idées. on va essayer de rocker le plus large pour les radio spots, là. Il y a plus que le vieux Grindhouse. On va aller se promener un peu. Puis en parlant de se promener, j'ai l'impression que c'est exactement ça que je fais aujourd'hui. On a parlé, mais très peu, de ce que je vais jaser aujourd'hui. Fait que, ça fait longtemps que je veux parler de ce film-là, mais pas... Ok, c'est difficile.
Vas-y, t'es capable.
C'est comme un difficile à positionner, on dirait, comme genre. Mais, tu sais, on a tous déjà réalisé des courts-métrages d'horreur dans notre jeunesse. Toi, Oli, je sais que t'en as fait pas mal. Tu sais, mais pas tout avec sérieux. Tu sais, juste prendre la caméra de papa, tourner des petits films avec des amis, puis du faux sang cheap de Jean Coutu. Puis, go, on s'amuse, on fait un film d'horreur, ou on fait un film de science-fiction, ou. Je doute fort que des jeunes ont déjà tourné un drame amoureux avec la caméra de papa, mais qui sait, hein, tout est possible. Sauf que certains dans cette aventure de l'amateurisme sont plus investis que d'autres. Le série Z. Là, hein, on connaît le terme série B, mais série Z, là, t'es dans les bas-fonds de l'amateurisme. Puis c'est pas nécessairement négatif, mais c'est vraiment le bon terme pour définir vraiment le cinéma amateur. Ça veut pas dire qu'il est mal fait, c'est juste qu'il y a zéro budget, zéro compétence, zéro éclairage, zéro vrai acteur. C'est ça le série Z. On va aller chercher une idée et de la motivation, de l'huile de coude, puis on va faire un film. Avec les avancées technologiques, la baisse du prix de l'équipement audiovisuel, ben c'est un genre qui se perd, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais selon moi, la série Z est morte parce que le HD n'aura jamais le charme d'un film tourné direct en VHS, même s'ils ont le même budget. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter un vrai série Z avec toute la magie qui vient avec par défaut.
C'était cute.
La magie. Zombie Bloodbath. Un film américain de 1993. Donc, vous devinez, série Z, mais aussi Direct to Video. C'est pas des films qui étaient présentés en salle, ben. Donc, c'est un film qui est fait par un fan de cinéma d'horreur. Pour les fans de cinéma d'horreur, une lettre d'amour au cinéma zombie. C'est réalisé par Todd Sheets. Une légende, je dirais, du série Z. À l'époque, il était un jeune américain du Kansas dans le Missouri. Il a réalisé son premier film amateur en 1985, très humblement, qui s'appelait Blood of the Undead. C'est un court-métrage. Mais ce qui est fascinant plutôt avec Todd, c'est son absence totale de progrès dans ses compétences. Mais malgré tout, peu importe votre opinion sur le bonhomme, on ne peut qu'admirer sa persistance et son enthousiasme. Même si on décide de se fier uniquement au film d'aujourd'hui, vous trouverez peut-être que la persistance et l'enthousiasme sont ses seuls traits admirables. Au total, c'est 47 films qu'il va réaliser, dont la grande majorité sont des longs métrages, et tout ça avec son propre argent, son entourage, les paysages environnements, du sirop de maïs puis du colorant rouge. Donc, d'ailleurs, Zombie Bloodbath est le premier d'une trilogie. Hein, quelques titres tirés de la filmographie de Todd Sheets. Vous allez comprendre le bonhomme, là. Brothers from Hell, Battle of Mashed Potato Mountain, Nightmare Asylum, Chainsaw Tales, Bloodthirsty Cannibal Demons, Vampire Holocaust, Biker Babes from Beyond the Grave, et j'en passe. Mais donc, c'est quoi le synopsis de Zombie Bloodbath? Quelque part au Kansas, donc on a un réacteur nucléaire d'un centre de recherche fédéral qui est sur le point d'exploser. Et si ce genre de catastrophe arrivait dans notre quartier aujourd'hui, ben le résultat serait une gigantesque explosion qui causerait mort et désolation. Mais pas au Kansas. Là, ce genre de tragédie nucléaire transforme les employés de l'usine en esti-clowns. Je veux dire, en zombies assoiffés de sang. Excusez-moi. Quelle broutille. Bien des années plus tard, le complexe de recherche a été complètement rasé et son réseau de tunnels souterrains ont été bouchés, donc enfermant ainsi les zombies survivants. Aujourd'hui, par-dessus les ruines, c'est là que ça devient beau, on y trouve un joli développement de maisons de banlieue cossues. C'est dans ce nouveau quartier que l'on fait la rencontre de trois groupes de personnes que le réalisateur tentera de toutes les manières possibles de nous attacher, mais c'est sans succès, on ne s'attachera à personne. Il y a la famille Talbot, dont le fils Joey fait des films d'horreur amateurs. Il y a les amis de Joey, tels que Mike, qui viennent emménager dans le secteur depuis l'Arizona. Et il y a la bande de filles badass. C'est secondaire, on y reviendra. Durant le tournage d'un film amateur de Joey avec ses amis, à l'entrée barricadée du complexe nucléaire, ils vont tomber accidentellement dans un tunnel souterrain. Il y a comme, ça c'est pas solide, il y a un trou qui se fait, puis ils tombent dedans. C'était juste pas solide. Mais le père de Mike est un ancien militaire qui sait comment les sauver. Les morts-vivants vont sentir la chair fraîche et sortir du trou pour manger la population locale. Yo, hey, je fais juste une parenthèse, parce que je sais que je l'ai pas pris en note dans mes feuilles. La gang de filles badass, en fait, comment qu'ils vont se ramasser dans la situation, c'est que c'est comme une guerre de clans, ok, puis chicane. Il y en a une qui va mourir, puis ils vont essayer d'aller cacher le corps dans le trou des tunnels de l'usine. La question est, le trou vient juste d'apparaître. Comment ces filles-là savaient que c'était ouais. là? Je ne sais pas.
Mais c'est trop intelligente. Ouais.
C'est du série B, série Z. Ben, c'est ça. Hein? Donc, j'oserais dire que c'est un film catastrophe, mais là, je ne parle pas de son histoire, mais plutôt de sa réalisation. Une catastrophe. Mais c'est exactement pour cette raison-là qu'on regarde du série Z. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Là, on ne regarde pas ça pour son scénario brillant. Là, hein? Par définition, hein, le série Z, ça peut pas vraiment être de très grande qualité, sinon c'est plus du série Z. Du série Z, c'est cheap, amateur, mal filmé, mal éclairé, mal joué, puis c'est ça qui est le fun. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de regarder ce genre de bouse, mais si je peux me permettre, essayez-le. Mais pas tout seul, hein, attention, hein, vous t'offrez pas 20 minutes. C'est un film de party qu'on regarde en gang pour rire et juger. Bref, les mêmes raisons pour lesquelles on écouterait Occupation Double. Rire et juger.
Thank God.
Ben là, c'est vrai. C'est exactement ça.
La même chose.
Ben voilà. Vous vous doutez bien qu'une des particularités de Zombie Bloodbath est l'abondance du gore. Hein. Le gore est d'ailleurs une des raisons primaires de pour la réalisation du cinéma d'horreur amateur, hein? Parce que c'est bien beau faire des effets spéciaux, mais tu sais, on veut fabriquer des props en latex, puis filmer les tripes sanguinolentes, mais personne filme du gore sans monter une histoire autour. Parce que ça fait vide un peu. Ce serait terriblement plate. Parce que ça aurait juste l'air d'un démo d'effets spéciaux. Là. On veut une histoire. Ce serait pas regardable, en fait. Qu'on le veuille ou non, toute l'émotion d'un film, selon moi, passe d'abord par l'histoire. Ensuite, le gore, les effets spéciaux. Et pour jouer avec notre cœur sensible à un certain niveau. Mais certains seront pas d'accord avec moi, c'est certain. Mais c'est juste une opinion. Pourquoi je suis pas un grand fan de torture porn. D'ailleurs, je suis curieux. Êtes-vous des fans, vous autres, de torture porn?
Pas moi. Moi, ça m'impressionne pas. Ouais. Comment je pourrais dire ça? Quand la vague est revenue, il y en a qui avaient appelé décadence comme étant de la ouais. torture porn, moi.
Non,
pas vraiment.
Pas vraiment.
On va dire comme du
Hostel. C'est proche quand même.
C'est comme revenu avec Hostel. Du Hostel, puis Hostel, moi, Eli Roth.
Je sais, tu l'aimes tellement.
Je l'aime tellement.
non,
parce que s'il n'y a pas un ton vraiment dark,
ouais.
Ou Gas Serbian Movie qui. Moi, ça m'impressionne pas. Ouais. Du gore, là. Si je vois quelqu'un se faire, exemple, passer une feuille de papier entre les tendons des doigts ouais. bien tranquillement, là, oui, tu vas m'entendre grimacer, puis oui, je vais capoter. Mais voir quelqu'un se faire vider de ses entrailles, comme là, ils ont ressorti le c'était quoi, là, dans le temps, là, les Guinea Pig Movies? Ils ont sorti une autre version de. Ouais. Ça m'impressionne pas. Fait que non.
Moi, tu vois, c'est les ongles.
Yeah, tu vois-tu? Ça vient de chercher. Je dis pas que j'aime pas voir quelqu'un se faire décapiter puis que c'est super bien fait. Ouais. Mais je le sais.
Ouais, on aime ça, les effets spéciaux. Mais
tu sais, comme Infantry of Doom. Dirais-tu que c'est une série Z? Ben, pas loin.
Ben, je le considère quand même série Z parce que c'est quand même du cinéma amateur, film en vidéo, là.
Ça m'impressionne pas. Je suis pas un si grand fan, puis je sais pas, c'est juste moi, là. Ça me fait rien.
Moi, c'est pas ma tasse de thé.
Toi?
Non, c'est ça. Torture porn comme tel, moi non plus, ça me fait pas triper. J'aime qu'il y ait une histoire. Je trouve ça plate quand le gore devient la vedette du film. Je trouve ça dommage. L'histoire devient beaucoup trop secondaire, puis c'est là qu'on se perd, tu sais. C'est une question de goût, mais bon, je parle de parler parce que dans le série Z, il n'y a aucune règle qui tient. Tout est mauvais. Fait que on s'en fout rendu là. Mais donc, le gore pour Zombie Bloodbath, ben, si vous aimez ça, vous allez être gâtés parce que c'est mur à mur. Oh, que ça a dû coûter cher en sirop de maïs. Je dois l'admettre, toutefois, Todd utilise malheureusement un peu toujours le même pattern, peut-être par manque d'imagination, et ça devient vite répétitif. Il y a un humain, ok, on y va simple. Il y a un humain qui se bat contre des zombies. Il devient submergé par une horde de zombies. L'humain se fait traîner au sol en hurlant. Les zombies arrachent ses intestins et jouent avec. C'est un peu toujours ça. Ça oui. fait très...
Romero.
C'est ça,
Day
Romero.
Of the Dead, Dawn of the Dead. Là. C'est... Ou les zombies des années 70-80.
Ben, ouais. Voilà. D'où mon propos plus tôt où je disais que c'est une lettre d'amour au cinéma d'horreur. Là. C'est un hommage en quelque sorte au cinéma de Romero. Ce type, en tout cas, Zombie Bloodbath, on sent l'amour, on sent l'hommage. Il y a des scènes, on dirait carrément repris de Night of the Living Dead, sans la profondeur. Là. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une lettre d'amour. C'est pour ça que c'est un bon choix de départ pour comprendre c'est quoi le série Z d'horreur gore, en fait.
Mais le, justement, le gore et les effets spéciaux, ça a l'air de quoi?
J'y arrive.
Ah, OK.
Bonne question, Olivier.
Mais non, mais... Ben là, c'est sûr que c'est filmé direct to video.
Ah, mais dans le sens, c'est de la plasticine.
Ah non, c'est un gars qui a... Tu sens qu'il a appris par lui-même, okay. Mais qui maîtrise bien son art du low budget.
OK.
Fait que, mais c'est ça que j'allais dire, justement. Pour ceux qui ont envie d'apprendre la fabrication d'effets spéciaux, voilà votre chance. Je vais vous expliquer une affaire, toute simple. Les gens normaux vont peut-être l'apprendre et ensuite le voir eux-mêmes beaucoup plus dans la vie de tous les jours ou dans leur entourage, tandis que les artistes, d'expérience ou non, seront assurément d'accord avec moi. Je veux parler des verts, V-E-R-T, la couleur, les verts. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un, disons un peintre, qu'il est encore vert, ça veut dire qu'il est pas mûr, hein, comme un fruit qui est pas mûr, il est pas prêt. Disons qui est peut-être sur le bon chemin, mais qu'il lui reste encore du chemin à faire. C'est pas bitch. Le but c'est pas bitch de cette expression là. C'est juste, tu sais, il est pas tout à fait là encore. Hey, là, va falloir j'apprenne à arrêter de cogner le micro, puis vous autres, arrêtez de cogner sur la table. On va y arriver. Mais donc, c'est ça, c'est juste qu'il est pas tout à fait prêt. C'est sûr qu'il y a des défauts dans tous les types d'art qu'on peut facilement reconnaître par rapport à une écriture verte ou une réalisation verte. Que ce soit en musique ou en cinéma, je trouve qu'il y en a un qui est récurrent, c'est de savoir choisir, de savoir prendre des décisions pour aider à synthétiser son idée, resserrer, raccourcir, choisir ce qu'on coupe, choisir ce qu'on garde. Mm-hmm. Dans la musique, on va le remarquer avec des chansonniers qui débutent, les chansons qu'ils composent sont trop longues. Ça donne des tunes de 6 minutes et en termes commerciaux, c'est trop long. Ta chanson sera pas moins bonne si elle est plus courte. Les gens vont juste la réécouter plus s'ils l'aiment. Ça ouvre les portes aussi des grands médias, disons. Hein? C'est une réflexion. Je te dis pas que faire une tune de 6 minutes, c'est pas bon, là. Mais on voit ça beaucoup dans les jeunes chansonniers, les petits bands qui débutent. Moi, d'ailleurs, j'ai fait de la musique beaucoup avant, puis c'était la même affaire. Mais tune, c'était difficile pour moi faire une tune de moins de 4 minutes et demie, 5 minutes, mais c'est complètement absurde. Faut couper là-dedans, tu sais. On apprend avec le temps. Au cinéma, je trouve que ça ressort dans le manque de rythme. Les plans vont être coupés, ça va être trop long, chaque plan va être un petit peu trop long, une demi-seconde, de trop à gauche, à droite. Il va y avoir des répétitions inutiles, des mauvais timings. Tout ça affecte la rythmique du métrage et ça fait une différence majeure sur notre attention et notre appréciation. Bien, dans le série Z, comme dans Zombie Bloodbath, c'est un problème particulièrement récurrent, le manque de rythme, et ça fait qu'on trouve ça long par moment, et que même si on a l'impression que ça bouge tout le temps, ben, on accroche difficilement, puis on s'attache à personne. C'est pourquoi c'est un film qui passe mieux si on est entre amis à parler par-dessus ou à le commenter. C'est un peu le principe de l'émission américaine Mystery Science Theater 3000,
oui.
Hein, où les personnages du show commentent le film de la semaine tout le long. On les voit carrément dans le plan. A priori, ça peut sonner bizarre, mais comme concept, mais bien souvent, ces films-là sont pas écoutables autrement. Je trouve que c'est une excellente idée, justement, comme ça. C'est trop lent, c'est des films mauvais, donc ça met notre endurance au défi, mais avec des commentaires, en jasant, en riant, ça devient agréable, ça devient un party tape.
Mais on justement. L'a refait, ça. On l'a fait, toi, puis moi, sinon.
On l'a fait à un moment donné d'un début pour
un. Ouais, il y a 4 ans.
Ouais. Ah, cool.
Avec une nuit à l'école, puis Code Père Noël.
Ouais, 36-15, Code public, Père Noël. On avait essayé ça. C'était le fun.
Sur webcam.
On pourrait le refaire, mais. Faut se déplacer.
Ah, c'est lourd.
Puis moi, aujourd'hui, toute activité qui nécessite de mettre des pantalons, ça ne tente pas, c'est lourd.
Non, on veut, ouais.
Non, fuck les pantalons.
Mais, hein.
Quelle mauvaise idée. Mais bon, non. Mais bon, hein, en gros, regardez pas ça au complet tout seul, là. Vous méritez mieux que ça. Mais là, je m'en allais quelque part avec ça. Ah oh oui, ok! C'est super fake, mais je vais avouer qu'en l'écrivant, je partais, puis là, j'étais rendu à des kilomètres d'où j'étais parti. Fait que, on revient à mon idée de base. Je vous disais que si vous vouliez apprendre les effets spéciaux, c'est un bon petit film série Z parce que, à cause du manque de rythme. Et ce, parce que Todd reste fixé tellement longtemps avec la caméra sur ses scènes de gore, il doit être tellement fier de son travail qu'au final, on reste trop longtemps, puis on a amplement le temps de voir de quelle manière ça a été fait.
Ouais.
Si on l'accepte, c'est intéressant. Vous avez autant en masse d'analyser tout ça, et même si ça sonne comme négatif, ça l'est, là, mais il reste que c'est intéressant de voir le travail d'effets spéciaux des gens. T'es comme, moi, j'aime bien ça. Fait que, pas de rythme, mais on peut y offrir un autre regard plus, je dirais, éducatif au film. Ça, c'est intéressant. C'est genre, je passerais de ces scènes-là dans un cours de cinéma, par exemple, pour expliquer le manque de rythme, puis pour démontrer de quelle manière ça va affecter ta scène d'effets spéciaux qui, plus resserrée, aurait plus d'effet, par exemple.
Okay.
Mais c'est intéressant. De toute façon, à part le gore, on va être franc, Zombie Bloodbath a pas grand-chose d'autre à offrir. Je doute qu'il y avait vraiment eu de scénario à proprement parler. D'après moi, son petit monde devait improviser à mesure que le tournage avançait. C'est d'une absurdité, là, mes amis. Là. Et boy. Mais bon, comme si c'était pas assez de tenter de nous faire croire qu'on aurait bâti un quartier de banlieue sur un ancien site radioactif d'explosion nucléaire, ben pour ajouter à notre horreur, l'usine avait été construite sur un ancien cimetière indien.
Oh, regardons ça.
Hey, c'est tellement épeurant, les cimetières. Ça, c'est épeurant, les cimetières. Check-moi le poil, Oli. Check-moi le poil. C'est tout hérissé. Mais attention.
Je peux te regarder, moi.
Qui s'y frotte, s'y pique.
Oh! J'arrive.
N'importe quoi. OK. On va aussi avoir droit à plusieurs reprises à la... Ah, ça, là. Ça, j'aime ça. À la cachette préférée des méchants au j'en cinéma. Hit. C'est pour vous sauter à la gueule sans crier gare, et je veux parler ici d'une cachette qui m'attriste beaucoup de ne pas y avoir accès dans la réalité. Je veux parler ici du hors-cadre. La meilleure cachette de méchants du monde. OK, on a ça mur à mur dans tout le cinéma série B et série Z. Nos antagonistes pourraient être en plein milieu du désert. Il n'y a rien à des kilomètres, même pas un buisson pour se cacher. Quand soudainement, pop! Devant la caméra, il sort des ninjas du côté de l'écran, comme s'il suffisait de ne pas être devant la caméra pour être invisible aux yeux des personnages.
Il n'y a rien autour,
c'est malade, j'adore ça. c'est toujours magique. Eh bien, ça manque pas dans Zombie Bloodbath. Des fois, un moment donné, ils sont en plein milieu de la rue. Tu sais, il y a des buissons, des arbres, mais ils sont en plein milieu de la fucking rue. Il n'y a rien autour. Puis là, ils sont attaqués par 25 zombies! Cibole, vous les avez pas vus? Est-ce arrivé? Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi, mais j'adore ça. Un film qui en a beaucoup aussi, c'est Deadly Prey, de film d'action, de pseudo-guerre cheap, de vengeance personnelle. Là. J'en ai pas déjà parlé ici. Mais sinon, il va falloir. Même semble j'en ai parlé de Deadly Prey ici. Ça fait longtemps. Mais bon, en réalité, Il y avait sûrement un scénario à Zombie Bloodbath, mais comme dans toute production verte, je pense que Todd a écrit un film qui avait pas les moyens de filmer, puis il s'est entêté à le faire pareil au mieux de son manque de connaissances ou de compétences. Par exemple, si t'écris dans un scénario qu'une horde de zombies s'échappe d'un grand trou dans le sol, ben tu ferais mieux de t'assurer que t'as accès à un grand trou, que t'en as un sous la main pour tourner ta scène quand t'as pas de budget là, pour le faire. Mais là, parce que dans Zombie Bloodbath, au lieu de sortir d'un trou, les zombies ont juste l'air de débarquer dans l'arrière d'une petite butte de sable dans le fond d'un champ du Missouri. Puis là, le problème, c'est que c'est environ 45 minutes plus tard, lorsque débarque le personnage de Daria, qu'on va là comprendre par ses lignes mal jouées que c'était supposé être un trou dans le sol. Ça fonctionne super bien. Puis attendez de voir les comédiens, ou plutôt, ce serait plus exact de simplement dire ses amis à Todd Sheets puis les membres de sa famille. Donc, juste pour leur jeu de mauvaise qualité, je trouve que ça vaut le temps investi, là. Attendez de voir les vêtements aussi. C'est sûr que c'est leurs vêtements à eux, là. Tu sais, il n'y avait pas de designer pour la garde-robe, là. J'ai ressenti un peu le même feeling que je ressens quand je regarde La Poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que même si j'ai beaucoup de misère à le croire, tu le sais que ce que porte la vieille Ginette de Saint-Joachim ou la petite Nicole de Valleyfield...
Ils sont plus beaux qu'elle.
Hey, oui. Tu sais, c'est ça, tu le sais que...
Content d'être là,
ah,
là.
Oui.
C'est ça, c'est sûr que c'est le plus beau vêtement ouais. qu'ils ont dans son garde-robe. Oui. Je veux dire, on les a pas pris par surprise, là, dans le centre d'achat. Ils les a pas kidnappés. Ils savent qu'ils vont passer à la TV. Ouais. Puis c'est ça qu'ils ont choisi comme vêtement à porter. C'est d'une irrationalité admirable. C'est un peu ce que j'ai ressenti en voyant les vêtements de quelques-uns des personnages dans Zombie Bloodbath. Puis le fait que ça a été filmé en 93, ce n'est pas une excuse valide selon moi. Moi, mon morceau préféré du film, c'est le chandail des California Raisins. Je vais juste dire ça.
Oh boy!
Trouvez-le!
Oh boy.
Trouvez-le!
Je les avais en petit bonhomme.
J'ai encore un petit bonhomme dans ma bibliothèque. Ouais. Néanmoins, cette rareté, parce que oui, cette VHS existe, mais elle est pas facile à trouver, cette rareté, dis-je, porte le sceau, la marque flamboyante même, de l'icône méconnue du monde du Series Z. Il est bien sûr pas le seul. Hein? Aux États-Unis, on a le encore plus inepte, je vais en parler bientôt, David The Rock Nelson. En France, on a Norbert Moutier, alias NG Mount, que j'ai hâte de discuter aussi ici. Au Québec, on a eu Rogers Normandin, dont j'ai déjà discuté ici. Mais dans le milieu de l'horreur gore, nul doute que la persévérance de Todd Sheets doit être griffonnée, du moins au panthéon du Series Z et du cinéma d'horreur à petit budget. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Sans que je prétende que ce soit un film à voir absolument, j'ose prétendre que c'est un genre à découvrir et que Zombie Bloodbath est un bon départ pour ce qui est du volet américain, du moins. Donc, je vous ai partagé ma VHS directement sur le blog. Le film est disponible en entier en version originale anglaise au www.lesoubliettes.ca. Mais vous autres, est-ce que... Ouais, vas-y, t'avais-tu une question?
En fait, pendant que tu parlais, j'ai regardé sur Internet Movie Database et son prochain film va s'appeler Clownado.
Clownado!
Tiens, donc, écoute, tu regardes sa filmographie, il a fait deux films en 2018, là.
Ah oui, ça
roule. Il est en feu, là. Il arrête
mais
pas.
Mais là, Clownado,
de voir ça, parce que c'est le type.
Il est le fun, mais regarde pas ça tout seul.
Non, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu, genre, dans le même style que Splatter Farm.
Ouais.
Tu sais, Splatter Farm, tu regardes ça en gang, c'est très. C'est les Polonia Brothers, eux autres aussi, au niveau de la série,
les frères Polonia.
Je pense qu'il y en a un des deux, des Twins qui est mort. Je regarde ça, puis je serais curieux de voir ça, Zombie Bloodbath. Puis, exemple, voir High Debt, le dernier qui est sorti. Puis, dans plusieurs de ses films, j'ai regardé dans Trashplotation, t'as Lena Quigley. Qui joue dedans.
Quand même, hein? Mais c'est ça, je veux dire, Todd Sheets, à la longue, tu sais, son premier film est en 85, son premier court-métrage, puis il a jamais arrêté. Il a jamais arrêté. Puis il a réussi à distribuer lui-même son matériel en VHS.
Public, il a vraiment publié.
Fait que c'est
ça.
Il y a un une espèce de petit culte autour de Talchi. C'est pour ça que je dis que c'est une espèce de légende du genre. Ça me surprend pas qu'il ait, à un moment donné, à force de faire peut-être des conventions, il a réussi à contacter Lena Quigley, puis l'a invité, puis qu'elle a dit oui, tu sais, c'est un symbole, c'est une espèce de petite icône méconnue du série Z, Talchi. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de Zombie Bloodbath. C'est peut-être pas son meilleur, c'est peut-être pas son pire, mais c'est un bon point de départ pour découvrir, comme je disais, le série Z.
Ben écoute, tu me donnes le goût, puis en plus, écoute, ces titres de films sont
ça a pas de bon sens.
C'est pour ceux qui me font capoter, regarde.
Ah, je
oui,
sais.
Ben je sais, c'est mais beau. Regarde le titre.
Tu sais, c'est une job de paint, là.
Oh, ouais, il y a vraiment du beau travail
Sorry,
qui est fait
babes,
sur ces affiches.
In the dance, a ton of that.
c'est magique.
Il
là.
Va vraiment
oh, chercher. Ouais, ouais. Non, non, il se gâte avant tout, puis je pense que ça devrait être ça, le cinéma, puis malheureusement que les grosses machines, des fois, ça se perd.
Oui, tout à fait.
Y a-tu des... Hey, compte-nous donc un court-métrage que t'avais fait quand t'étais jeune.
Oh boy. Ok.
T'as un synopsis de quelque chose que t'avais fait?
J'avais fait en secondaire 2 un court-métrage à mon école à Brossard. L'école participative, j'avais appelé ça Demon Stone, puis il y a un film qui s'appelle Demon
oui,
Stone,
oui, oui.
Pour vrai, okay. Qui n'est pas en tout rapport avec ça. Puis c'est vraiment des jeunes qui vont dans une école jouer, faire un genre de rituel, puis ils vont libérer finalement un démon, genre, qui est joué par moi. Où je me promenais avec une cape noire, puis mon maquillage, mes crocs, puis j'étais bien maquillé, c'était hot, là. J'étais un petit prodige en effet spécial. Même à cet âge-là. Puis, courir dans les corridors, je faisais jouer de la musique. Tu sais, j'ai pas de montage pendant ce temps-là. Fait qu'il y avait une radio de cachet, puis il y avait la musique d'Halloween 2 qui jouait pendant les scènes où ce qui courait entre les casiers.
Oh,
puis à la fin, mon stone, mon Demon Stone, qui était comme une genre de. C'est ta pierre préférée, genre du quartz.
Du quartz! Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de quartz.
Puis à la fin, je me souviens comment il s'appelait Michel Jagner. Il y avait Michel Jagner, Valérie Saham qui jouait là-dedans. Peu importe. Puis pour me tuer en tant que tel, il m'arrachait mon médaillon que j'avais comme remplacé par une glace. Puis il l'a pété en terre, puis je me mettais comme à pioquer, puis avec des serpents qui me sortaient, ouais.
Ah, cool.
Fait que Demon Stone 1994, 95, probablement chez ma mère, elle a ça.
Tu montres ça.
Bientôt en critique sur Erreur Québec.
Oh yeah. Ça me fait plaisir.
Ah, ben ceci étant dit, merci beaucoup d'être venu nous annoncer autant de bonnes et de moins bonnes nouvelles.
Tant d'amour à donner.
Ah, oui. Je vais le prendre.
Oui, prends-moi.
Puis je vais me l'étendre partout sur le corps avec du beurre de peanut.
On aime ça.
Olivier, merci beaucoup. Est-ce que tu nous prépares un petit quelque chose la semaine prochaine?
Oui.
Yes.
On devrait trouver quelque chose de l'allure, là.
Peut-être te parler de Noël, là.
Oui.
Ouais, t'as-tu quelque chose?
Exactement. Tu sais, on rush chaque année, hein.
Ah oui, en Noël, on commence à manquer d'idées.
J'ai parlé d'un film avec Sally Field. Cette année, je sais exactement de quoi je parle.
Moi, d'accord. J'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va fonctionner pour parler de Noël.
Okay.
On va s'en jaser hors onde, puis je vais peut-être faire des petites invitations pour le dernier avant les vacances de Noël.
Okay.
Je sais pas encore, je suis en train de réfléchir à tout ça. Sur ce, merci à chacun de vous, chers auditeurs. On va aller écouter une tune random d'Horace 8 parce que je trouve ça drôle. Puis on se revoit la semaine prochaine.